l'enjeu est capital, c'est-à-dire l'enjeu est ne pas perdre la vérité du texte tout en maintenant la vérité de la science. Mais à l'époque, ce qui n'est pas clair, c'est qu'en réalité, la vérité d'un texte, même biblique, souvent ne peut s'apercevoir ou ne peut vraiment se comprendre que si on abandonne la lettre. Parce que si vous vous intéressez au livre de Jonas, vous faites une lecture spirituelle du livre de Jonas, et si toute votre retraite de 10 jours sur le livre de Jonas ne consiste qu'à faire de la biologie du poisson, alors vous sortez de cette retraite en... Je ne sais pas, vous pouvez faire de la pisciculture, mais au niveau spirituel, ça ne vous a rien donné. Oui. Alors, réfléchir sur la manière dont Jonas se trémousse à l'intérieur d'une baleine ou d'un autre poisson, c'est amusant, ça peut être intéressant d'un point de vue théorique, mais spirituellement, on est passé à côté du sens. Hein? C'est un peu comme si... parfois, alors, il y a des... moi, j'ai des étudiants souvent qui comprennent... Enfin, je ne suis pas un bon professeur, mais donc il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent jamais ce que je dis. Et alors, ils disent, mais ça, on ne comprend pas. Je leur dis, regardez, si je dis les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Hein? Bon. J'ai entendu ça. Bon. Alors, c'est une belle poésie, etc. Et alors, je dirais, moi, pour comprendre ça, je vais prendre un Stradivarius, d'accord, et je vais le démonter, hein, Stradivarius, je vais le démonter, et je vais rechercher à l'intérieur du Stradivarius des glandes lacrymales. Oui, parce que les sangles longs des violons. Donc, les violons pleurent. S'ils pleurent, il doit y avoir une source des larmes, des glandes lacrymales. Je vais rechercher dans le violon les glandes lacrymales. Hein, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Donc, ces larmes doivent être très acides ou transpercer mon cœur, le blesser, etc. Bon. Donc, je vais expérimenter, secouer le violon, voir ce qui va tomber et voir si ça a une influence sur mon cœur. Celui qui fait ça, eh bien, il est passé à côté de la vérité de la poésie. Hein, parce que c'est une poésie qui dit quelque chose de vrai sur le spleen qu'on peut avoir à l'automne où on est un peu déprimé, les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ça dit quelque chose de vrai sur un état psychologique. Mais si on s'en tient à la lettre, on est perdu. C'est comme si on dit, oui, mais votre cours, vous nous faites avaler des couleuvres. Et il y a quelqu'un qui dit, ça c'est extrêmement dangereux, il faut téléphoner à la police. Parce qu'il y a un professeur qui essaye de faire ingurgiter des reptiles aux gens. Et alors j'ai une commission d'enquête qui vient, on m'arrête, j'ai les menottes parce que j'essaye de faire passer des reptiles, avaler des reptiles aux étudiants. Donc, ou bien vous me tapez dessus, j'ai vu 36 chandelles et vous me dites, non, 37. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Bon, alors ce qui nous paraît évident n'était pas très évident à l'époque parce que le problème est de savoir, oui, bon, dans ces cas-là, on voit bien, mais est-ce qu'on peut faire la même chose sur un texte biblique? Vous voyez? Alors, au début du siècle, on est embêté parce qu'à la fois, il y a des choses qui doivent être prises au sens littéral, et puis il y a des choses qui... c'est difficile de les prendre littéralement. Mais alors, quel est le critère? À ce moment-là, si vous voulez, l'Église n'avait pas encore tous les éléments au niveau de son discernement pour dire il y a des contextes littéraires dans lesquels on doit interpréter comme ci et d'autres comme ça. Aujourd'hui, on les a parce que l'hébreu biblique, l'archéologie biblique, la philologie hébraïque, etc., a fait beaucoup de progrès, et l'Église qui tient bien sûr compte de la vérité de ces sciences-là, s'est aperçue que c'était très important, justement parce que le cœur de la vérité nécessite de prendre au sérieux les textes et de voir le contexte. Vous voyez ? Ce n'est pas pour ruiner la vérité, au contraire. Parce que celui qui ruine la vérité, c'est celui qui fait de la biologie à partir du livre de Jonas, c'est celui qui chronomètre les 24 heures dans le jour de la Genèse, ça ruine la vérité du texte. Mais par contre, attention, ça ne veut pas dire pour ça que dans certains contextes, on ne doit pas prendre les choses pour argent comptant, et littéralement, hein, pour certains, va, vends tout est bien et suis-moi, certains l'entendent littéralement, et peut-être pas tout le monde, mais certains l'ont pris littéralement, et c'était comme ça qu'il fallait que ce soit compris. Mais d'autres choses, non. Mais dans notre vie, c'est comme ça, hein. Il y a évaluation pour mon module, parce que maintenant, M. Semaine m'a dit, attention, parce que, il y a évaluation pour mon module. Il paraît que c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié, mais c'est vrai. Et vous dites, Oui, mais enfin, c'est une façon de parler assez poétique. À Philanthropos, quand on dit évaluation d'un module, oui, on dit ça. Mais en réalité, c'est une façon poétique de dire vous pouvez partir en vacances et vous n'avez pas à vous soucier du module. C'est une façon peut-être à contrario de dire les choses. Mais non, il y a une évaluation, si vous voulez. Bon, il y a des choses qui sont à prendre. Mais quand on dit une poésie, on la prend comme une poésie. Bon. Alors, le concordisme est cette position qui consistait à mettre ensemble immédiatement, et immédiatement, vous voyez, parfois les mots sont intéressants à disséquer, pas toujours, mais parfois, immédiatement, si je l'écris comme ceci, ça veut dire sans médiation. D'accord ? Ça veut dire pas immédiatement, temporellement, mais ça veut dire immédiatement, ça veut dire sans médiation. Je prends immédiatement, c'est-à-dire sans intermédiaire, je passe de la science à la théologie. Un exemple sur lequel je vais revenir, c'est Big Bang et création. Oui, singularité initiale de la cosmologie et création. Donc, les astrophysiciens, aujourd'hui, pensent que l'univers a commencé par une sorte d'état très dense, très... Bon, je vais y revenir. Et je passe directement, ah ben donc c'est la preuve que Dieu a créé le monde. Big Bang, création. Et inversement, création, s'il y a création, nécessairement, il y a un commencement physique, donné, etc. Et il n'y a pas de Big Bang ? Ah oui, mais ça, c'est dangereux, alors. Parce que alors, Dieu n'a pas créé. Vous voyez ? Big Bang, création, si j'assimile les deux, crac, je suis dans un type de concordisme. Maintenant, pourquoi doit-on le refuser, etc. J'ai donné quelques éléments déjà ici. On devrait, en exégèse, refuser un certain nombre de concordismes parce que le contexte montre justement que tel texte n'est pas un texte de biologie. La Genèse, ce n'est pas un texte de physique au sens de la physique contemporaine. Jonas, ce n'est pas un texte de biologie, etc. Et le contexte montre qu'on ne peut pas identifier la lettre de la Bible avec un contenu directement scientifique. Alors pour la question Big Bang création, ça j'y reviendrai par la suite. Ça va ? Bien. Alors, le concordisme... Donc, au niveau donc, de l'exégèse, voudrait dire contenu biblique, donc contenu biblique identifié au contenu scientifique. Bon. Maintenant, un concordisme au niveau, ça c'est peut-être l'origine du mot concordisme, c'est ça, c'est l'exégèse. Mais vous avez, vous pourriez traduire le concordisme à un niveau métaphysique. Un niveau métaphysique ou plutôt ontologique. Je vais lire ontologique. Alors qu'est-ce que c'est l'ontologie ? L'ontologie, c'est la branche de la philosophie qui s'occupe des êtres, ontos, donc des réalités. Qu'est-ce que c'est qu'une réalité ? Quel type de réalité apparaît dans quel type de branche ? Un exemple concret, c'est l'ontologie appliquée aux mathématiques va se demander quel est le statut, quelle est la nature des objets mathématiques, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? C'est fait de quoi ? Où existe-t-il ? Dans quel monde ? Qu'est-ce que c'est que les objets mathématiques ? Un vecteur, par exemple. C'est quoi un vecteur ? Oh, il est là. Hein ? Pi, he spy in the sky, posait un mathématicien il y a quelques années. He spy in the sky. Est-ce que Pi est dans le ciel? Ah, il est là, je l'ai vu passer. Pi, je l'ai vu passer. Vous voyez? Quelle est la nature des objets mathématiques? Où sont-ils? Dans quel monde? Etc. Ça, c'est des questions de type ontologique. Alors, quel est l'objet de la biologie? Quels sont les objets vivants? Quelle est la nature des objets de la biologie? Dès qu'on pose une question sur les objets d'une science, nature, monde dans lequel ils sont, etc., on pose des questions de type ontologique. Bon. Alors, le concordisme ontologique viserait à dire on peut identifier les objets de la théologie ou l'objet même de la théologie avec l'objet des sciences. Et ils concordent tout à fait. L'objet des sciences, l'objet de la théologie concordent. Alors ça, quel est l'objet de la théologie ? Mais on pourrait dire, l'objet de la théologie, c'est Dieu. Et quel est l'objet des sciences? C'est le monde. D'accord? C'est l'univers. D'accord? Le concordisme ontologique reviendrait à dire l'objet de la théologie et l'objet des sciences, c'est la même chose. Alors cette position-là, c'est une position bien connue dans l'histoire de la philosophie, et c'est ce qu'on appelle, comment appelle-t-on cette position qui identifie Dieu au monde et le monde à Dieu? Oui, c'est ça, c'est le panthéisme. Hein? Le panthéisme, pantathéos, hein, Dieu est le tout, Dieu est le grand tout. On pourrait dire en des termes modernes, Dieu serait l'ensemble de l'espace-temps et la matière. D'accord? C'est ce que Spinoza, hein, donc c'est, cette position-là, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Et un des grands représentants du panthéisme, certainement, même si on peut discuter de la nature du panthéisme de Spinoza, c'est Spinoza, donc le philosophe hollandais, hein, qui avait cette définition de Dieu. Souvent, il disait « Deus sive natura ». Donc, dans ses écrits, il disait souvent ça. Quand il parlait de Dieu, « Deus sive natura ». Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu ou bien la nature. Ça veut dire que lui disait « Dieu synonyme la nature » ou « la nature synonyme Dieu ». Autrement dit, dans cette posture intellectuelle, philosophique, le monde est assimilé à Dieu et Dieu est assimilé au monde. Et donc, la science peut directement passer dans le champ théologique, puisque l'objet de la science et l'objet de la théologie, c'est la même chose.